C'est la deuxième heure de ce 1159e Sweet Home Chicago avec deux invités en un, Yulia Gubenko et Olivier Raymond, respectivement chanteuse et guitariste du groupe Elise and Sugar Sweet, en interview pendant toute cette deuxième heure avec quelques extraits de leur album Horror Show, également trois titres entiers. Et voilà, on va passer cette deuxième heure ensemble. Olivier Raymond, bonjour.
Bonjour Marc Loison.
Yulia Gubenko, bonjour.
Bonjour Marc.
Très heureux de recevoir deux des membres du groupe Elise and the Sugar Sweets aujourd'hui. Un album sorti au printemps dernier et dont on parle en cet été dans Sweet Home Chicago. Un album qu'on pourrait qualifier de rhythm and blues au niveau du style, c'est ça?
Ah ouais, ça nous va bien. Je crois que c'est ce qui nous caractérise le mieux finalement, parce que c'est plein d'influences différentes, mais rhythm and blues nous va bien.
Bon, d'habitude, quand c'est le cas, on commence par les dames. Mais là, j'aimerais bien qu'on démarre avec toi, Olivier, parce que je crois que tu es l'instigateur, le créateur de ce groupe, en fait. Elise and the Sugar Sweets, c'est ça?
Ouais, en fait, on a décidé, on est trois à avoir choisi de monter ce projet ensemble. C'est les frères Ferrier, basse batterie, donc Olivier et Jérôme, et puis moi-même, en 2016, et puis pour partir vers une nouvelle aventure.
Voilà, une nouvelle aventure qui a fait suite au groupe Shake Your Hips, qui avait explosé en 2015, au début 2016.
Ouais, déjà, à peu près, on a arrêté cette aventure-là vers 2015. Effectivement, pour partir vers de nouvelles choses.
Avec une chanteuse à l'époque qui s'appelait Elise, justement.
Elle s'appelait Elisa, en fait, pour tout préciser. Effectivement, on est parti avec un premier line-up. Et puis, les choses évoluant, chacun ayant voulu partir vers des horizons différents. En l'occurrence, Elisa a décidé de faire autre chose. Et puis, on a fait la rencontre de notre je vais dire égérie, j'aime bien dire ce mot-là,
ah oui.
C'est sympa. Ouais, Yulia, alors, et qui est venue nous rejoindre.
Mais alors, dis, qui joue le rôle de Tom?
Je ne sais pas, en fait.
Toujours Tom égérie, on est d'accord.
J'avais suivi.
Alors, tu l'as dit, hein, Jérôme Ferrier à la basse, Olivier Ferrier à la batterie, toi à la guitare, Olivier Raymond, et puis Bala Pradal au clavier, Bala qu'on a déjà entendu derrière pas mal de formations. Il est dans le tout nouvel album de Mama's Biscuit. Il a joué longtemps avec Big Days.
Ouais.
Comment s'est faite cette connexion? Parce que Bala ne faisait pas partie des Shaker Hips au départ.
Non, pas du tout. Mais en fait, la volonté de monter un groupe avec basse, batterie, guitare et surtout un clavier. Après, ça a été un des vrais choix stratégiques qu'on a initié en 2016. Avec une chanteuse à la tête, c'était vraiment le line-up qu'on voulait. Et puis, je pense que c'est des histoires de rencontres, en fait, tout ça. Parce que on a un ami commun avec Bala, qui est photographe, qui s'appelle Philippe Poitvin.
Ouais.
Et puis, en fait, c'est lui qui nous a fait nous rencontrer, en fait, finalement. Et ça a fait la connexion, en fait, tout simplement.
Yulia Gubenko, Yulia qui est avec nous au téléphone également.
Oui.
Qui est toujours là.
Et, j'espère que oui.
Et puis également, on aimerait bien savoir d'où tu viens et quand tu as intégré le groupe et savoir ce que tu faisais avant, parce que ça, c'est intéressant aussi pour nos auditeurs.
Bien sûr. Donc, du coup, moi, j'ai rejoint le groupe en 2019. Donc, c'était fin 2019 à peu près. Donc, c'était Olivier qui a commencé à me contacter bien avant, par contre, parce qu'il a fait, je pense, début 2019, enfin aux alentours, là je dis n'importe quoi, mais ça doit être ça. Donc du coup, il m'a juste proposé d'écouter leur musique. Donc il n'y avait rien de concret, il a juste dit Yulia,
ouais.
Qu'est-ce que t'en penses? Et du coup, j'ai dit, bon, sympa, c'est sympa, bon, je vais écouter. Donc il n'y avait pas de proposition claire et nette au départ. Donc du coup, Marc, je vais te raconter ma version. Je pense qu'Olivier, il va reprendre après derrière ce qui s'est passé, tu vois. Ouais. Donc du coup, il m'a contacté. Et puis pendant longtemps, il m'envoyait les invites pour les concerts que malheureusement, pas par mauvaise volonté, mais j'ai pas pu venir parce que il y avait d'autres choses, je ne sais pas. Mais j'ai pas pu venir. Pardonne-moi, Olivier, pour ça. Voilà. Et puis, vers l'automne, donc 2019, il m'a appelé déjà de manière plus concrète. Il m'a fait une proposition de passer les auditions pour le groupe, d'apprendre quelques titres, donc de Elise and the Sugar Sweet. Et puis, donc, du coup, en octobre, il me semble, 2019, ouais. Je suis venue à l'audition où il y avait tout le groupe. Il y avait Bala qui m'a fait extrêmement peur, mais bon.
Ah oui. Mais je vois absolument pas pourquoi, franchement.
Je me suis dit bon, ils vont jamais me prendre. Voilà. Et donc du coup, j'ai passé l'audition et puis à la fin de l'audition, Olivier et puis tout le monde, en fait, je dis Olivier, mais tout le monde m'a dit bah voilà, Julia, maintenant, comment on dit, le ballon est dans ton camp, la balle est dans ton camp. Enfin, il y a un truc comme ça, il y a une expression française qui dirait ça.
Ouais.
Et donc du coup, ils m'ont proposé donc d'intégrer le groupe.
Très bien. Et voilà. Et en ce moment, on est en train d'emporter l'ancienne chanteuse. On l'entend derrière, d'ailleurs.
Je lui souhaite pas.
Alors, Julia, il y a quelque chose qui nous intéresse aussi, c'est de savoir d'où tu viens. Avant de faire cette fameuse audition et puis, bien sûr, d'intégrer Elise and the Sugar Sweets, comment est-ce que tu es rentrée dans cette marmite de la musique et du chant ?
Alors, du chant, donc, c'est une histoire beaucoup plus ancienne que juste dans la musique, surtout dans le monde des projets personnels, des compositions, etc. Donc, moi, j'ai commencé. Donc, il faut dire que Elise and the Sugar Sweets, c'est le premier projet aussi, disons individuel, et donc du coup qui va vraiment vers sa musique. Avant, j'ai fait plus des projets, des reprises. Et puis aussi, il faut savoir que moi, je suis venue en France en 2014 ou 2015, je me souviens pas. Donc, et sinon, avant, je viens de la Sibérie, de la Russie.
À quel endroit en Sibérie ?
Alors, moi, je viens pas de la Sibérie où il y a les ours polaires, etc. Souvent, on me dit « Ah, ça y est, t'es une fille des froids ». Et c'est vrai, d'une certaine manière. Mais je me situe vraiment dans le sud, si on peut le dire, de la Sibérie, vers Mongolie, Chine, donc Kazakhstan, vers vraiment vers le bas. Là où il y a les steppes, donc nous on est un peu au milieu entre les taïgas, donc c'est la forêt donc russe, dense, etc. Et les steppes de Mongolie, donc on est à peu près entre les deux.
Alors voilà, pour situer autour de quelle ville d'importance, Julia ?
Alors ville d'importance, c'est Novosibirsk.
Ah voilà, d'accord.
C'est la ville plus grande.
Ouais.
C'est plus vers là-bas. Quand je dis à côté, tout est démesuré un petit peu.
J'imagine.
En Russie, donc c'est-à-dire que je suis à 400 km de cette ville-là.
Voilà.
Mais c'est la plus proche, celle qui est, voilà.
Et alors, question, parce que tu es arrivé il y a quelques années, tu viens de le souligner. Comment en est la musique là-bas ? Qu'est-ce qu'on joue ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est chanteuse à côté de Novosibirsk en Sibérie ?
Alors, moi, au départ, j'ai commencé par la musique folklorique russe. Donc j'ai commencé à chanter vraiment des chants, je ne sais pas si vous entendez un petit peu, mais avec beaucoup de poitrine, des yodels, donc toutes ces choses-là qui font plus, voilà, qu'est-ce que ça peut rappeler, les chants un peu typiques traditionnels russes, c'est ça que j'ai commencé. C'était quelque chose qui se pratiquait à l'époque quand j'étais petite le plus. C'était ma mère qui m'a mis dedans. Et puis aussi en Russie, il y a une culture des concours, donc on passe beaucoup de concours, on est un peu dans méritocratie quelque part. Donc du coup, moi quand j'étais petite, j'ai fait beaucoup de concours de chant, mais c'était surtout aux alentours de cette musique-là, donc de musique folklorique russe. Sauf que vers 13-14 ans, il y a tous les copains qui écoutent la musique actuelle, toi tu fais des chants bizarres, russes. Donc du coup, j'ai eu un petit peu envie d'aller vers quelque chose d'actuel. Et à l'époque aussi, il faut savoir que nous, on n'avait pas l'accès facile à la musique occidentale. Donc ça veut dire que t'avais que ce qu'il y avait un peu. Je suis l'enfant des années 90. Hein. Donc ça veut dire que ça a commencé déjà de s'ouvrir, mais vraiment on n'avait que la musique un peu commerciale américaine. Voilà.
C'est-à-dire pour situer, on est dans la période après Gorbatchev, on est dans la période Eltsine, c'est ça à peu près. Hein.
Eltsine, ouais, c'est ouais. Ça. Ouais.
Et donc à ce moment-là, à la radio, on n'a pas moyen d'écouter autre chose que de la musique traditionnelle ou de la pop musique russe, c'est ça en fait. Hein.
C'est ça, pop musique. Musique, enfin vraiment une pop de mauvaise qualité. J'ai pas envie de dire ça, moi j'aime pas dénigrer la musique quelle qu'elle soit, mais effectivement t'as pas par exemple j'avais pas l'accès à la musique, je sais pas, soul blues, rhythm and blues, c'était pas du tout accessible, ou il fallait, je sais pas où est-ce qu'il fallait la chercher, parce que je pense qu'à Moscou ça aurait pu être plus simple, mais moi je viens vraiment de fin fond de la Russie, donc c'est quelque chose qui était absolument inaccessible. Donc ça veut dire que mes premières connaissances de cette musique-là ou quelque chose qui s'y approchait, c'était plus Whitney Houston, des divas, disons, américaines. Donc c'était les premières que j'ai entendues dans ce style de musique où, il y a quand même, eux, ils prennent aussi quelque part la racine dans cette musique-là, même si par la suite c'est la musique pop. Mais au départ, ça vient quand même un peu de tout ce qui est gospel, soul, rhythm, blues.
Voilà, Yulia Gubenko, c'est comme ça que j'imagine qu'effectivement il y a eu cette ouverture après Gorbatchev puis Eltsine, mais cette ouverture elle n'a pas été forcément culturelle. Et alors comment est-ce que toi tu as pu te mettre en contact avec les musiques américaines pour les citer, puisque tu parlais de Whitney Houston par exemple, tu as commencé à entendre ça à quel moment?
C'est-à-dire qu'il y avait aussi une sorte de, comment dirais-je, une sorte de marché un peu noir, disons. Donc là, les gens, ils ramenaient quand même des choses.
Voilà.
Ça venait pas tout de suite avec des choses trop approfondies, mais il y avait quand même déjà les gens qui commençaient à faire venir un peu les Beatles. Mais les Beatles, c'était bien avant, même dans les années 80, enfin bref, dans toute cette période-là où il y avait encore l'URSS, les gens, ils les ramenaient via des marchés noirs, donc de la musique occidentale. Donc, et nous, dans les années 90, c'était pas le problématique de l'interdit, parce que c'était pas interdit. C'est juste qu'on n'avait pas accès, et à l'époque, c'était vraiment le bordel aussi, faut le savoir. C'était le chaos total. Ouais. Donc, il y avait juste pas. Donc, ça veut dire que déjà, la Russie, à l'époque, elle pouvait même pas se permettre. Donc, aucun habitant de la Russie ne pouvait pas se permettre la musique qui a eu une licence et qui est venue de manière officielle.
Voilà, ouais.
Ouais, donc voilà, c'était à chaque fois que c'était pas officiel.
Et donc, c'était des CD gravés qui passaient sous le manteau, j'imagine.
C'est ça.
Ouais.
Non, mais pas tant, parce qu'effectivement, à l'époque, à mon époque, c'était plus interdit. C'était juste que c'était, c'était des trucs trafiqués, mais c'était pas interdit.
Et donc, qu'est-ce qui t'a donné l'idée, l'envie de rejoindre l'Europe et plus particulièrement la France, Julia ?
Alors, la première fois, donc déjà, merci beaucoup à la France qui fait quand même beaucoup d'efforts pour répandre sa culture, déjà. Nous, en Russie, on a un organisme qui s'appelle l'Alliance française et qui, organise les concours de la chanson française en Russie.
D'accord.
Et moi, j'ai participé à ce concours quand je ne connaissais pas encore la langue française et j'ai donc, du coup, chanté une chanson. J'ai gagné un voyage en France comme ça. Je suis venue, j'avais 17 ans, donc c'était la première fois que je suis venue en France et j'ai gagné ce voyage. Donc c'était ma première connaissance avec la culture. Je suis venue à Aix-en-Provence, on avait donc un séjour de 2 semaines là-bas et je suis tombée mais amoureuse de la France et ça m'a jamais d'ailleurs quittée et je le dis absolument sincèrement parce qu'on peut être pas sincère quand on dit ça parce que bon voilà, on est déjà dans le pays, mais moi c'était tout de suite et je savais pas du tout que j'allais déménager en France parce que c'était jamais dans mes projets, mais je savais que c'est le pays qui a gagné un peu mon cœur.
Ah oui, formidable, c'est voilà. une belle histoire. Alors à l'âge de 17 ans, c'est-à-dire il y a à peu près 6 mois, c'est ça hein, que tu tombes amoureuse de ce pays.
Oui.
Qu'est-ce qui te décide au final à prendre tous tes bagages et puis à nous rejoindre finalement, à venir habiter en France ?
Alors, il y a eu un long chemin. Donc, c'est-à-dire qu'il m'a fallu au moins trois voyages en France, dont un qui a duré 1 an parce que j'étais fille au père en France, pour me décider juste de venir faire les études. Parce qu'au départ, je suis venue quand je suis installée maintenant. Au départ, je suis venue pour faire mon master en France. Donc, du coup, je commençais à étudier la langue française, l'anglais aussi. Donc, j'étais dans une équivalence de LEA, langue étrangère appliquée en Russie. Et donc, je suis venue faire mon master en France. Et puis après, au fur et à mesure, je suis restée comme ça. Parce que justement, c'est au-delà de ça. Donc, j'ai commencé par le cursus, disons, classique. Mais quand j'ai terminé mes études, j'ai rencontré une personne qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a aidée aussi de passer à la musique, mais de point de vue professionnel. Parce qu'avant, donc ça, j'ai pas dit, quand j'étais en Russie, j'ai commencé très tôt à gagner ma vie grâce à la musique. Donc, j'étais chanteuse un peu dans des fêtes de ville, dans des restaurants, dans des trucs comme ça. Donc j'ai commencé ça assez tôt, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à vraiment gagner ma vie grâce à ça. Mais vu que je faisais les études en parallèle, c'était toujours quelque chose où je mettais beaucoup de force, mais c'était quelque chose qui allait en parallèle de mon cursus classique. Et donc du coup, quand j'ai rencontré en France cette personne-là qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a poussée donc de faire de la musique mon métier déjà, c'est comme ça que je me suis lancée et je ne le regrette alors absolument pas.
Ah
et
oui, j'imagine.
Je pense que c'est la meilleure décision de ma vie parce que là, je ne fais que ça. Et c'est merveilleux.
Julia, on t'écoute avec grand plaisir et je constate que grâce à ces études et à ce bain de langue que tu as pu faire, tu n'as absolument aucun accent en français et en anglais non plus parce qu'on t'entend chanter. Enfin voilà, on n'imagine pas que tu viens des steppes de l'Asie, pas centrale mais presque, des steppes de l'Asie de l'Est. Franchement, hein, voilà, je n'avais pas imaginé. Moi, j'avais juste eu vent de tes origines par ton patronyme simplement, mais absolument pas par ton accent qui est parfait.
Oh, merci beaucoup. Bon, je sais que c'est un petit peu exagéré quand même.
non, du tout. Ben, franchement. Voilà.
Merci,
et donc, tu intègres, tu l'as dit tout à l'heure, en 2019, cette formation Elise and the Sugar Sweets, dirigée par Olivier Raymond. Olivier Raymond qui est aussi au téléphone. Tu es toujours là, Olivier, hein ?
Eh ben oui, je suis toujours là. Je vous écoute avec passion.
Voilà. Et j'avais une question justement pour toi, Olivier, par rapport à l'intégration de cette nouvelle chanteuse, Julia. Pourquoi est-ce que le groupe Elise and the Sugar Sweets n'a pas changé de nom, tout simplement ?
Bah, en fait, tout simplement parce que, en fait, déjà, Elise and the Sugar Sweets, c'était une marque déposée. Donc, à partir du moment où c'est une marque déposée, c'est aussi quelque chose sur lequel on a travaillé. On avait une certaine, entre guillemets, petite notoriété qu'on a essayé de cultiver. Et donc, la question s'est posée, bien évidemment, mais je crois que tous les professionnels, les attachés de presse, enfin, tous les tourneurs, tous les gens avec lesquels on travaille, nous ont dit non, il faut capitaliser sur un nom, il faut conserver ce que vous avez déjà fait sur ce nom-là.
Ouais.
Donc voilà, ça s'est décidé comme ça, tout simplement.
Voilà, une décision effectivement tout à fait justifiée. Ceci dit, Julia the Sugar Sweets, ça sonnait pas mal non plus, je trouve. Hein.
Ça aurait pu très bien fonctionner, je suis d'accord.
Voilà. On va revenir un tout petit peu sur ton parcours, Olivier, parce que moi, je te connaissais évidemment comme guitariste de Shake Your Ribs, mais auparavant, puisque tu as un tout petit peu plus de 17 ans, tu as fait des choses, j'imagine. Est-ce que tu peux nous parler, toi aussi, de ta mise au pied à l'étrier pour la musique?
Oui, bah, bien sûr. Alors, effectivement, j'ai un peu plus de 17 ans, ouais, je crois, à peu près. Un peu comme toi, en fait, finalement, Marc. En fait, moi, j'ai commencé...
Sauf que moi, ça se voit pas, moi, tu vois.
C'est... Non, j'ai perdu mes cheveux, ma barbe est blanche, enfin, voilà, je sais, je maîtrise le sujet. Non, en fait, ça a été, moi, je suis tombé dans la marmite de la musique très, très tôt, puisque j'ai commencé, en fait, par la musique classique quand j'avais 6 ou 7 ans.
Oui.
Et puis, j'ai commencé par le violon, en fait, pour tout dire. Et j'ai fait pendant très, 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 très longtemps, jusqu'à, je sais pas, l'âge de 22, 23, 24 ans, de la musique classique, en orchestre, dans différentes formations, soliste, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup bossé cet instrument. Il y a un instrument qui nécessite un travail vraiment approfondi pour obtenir ses prix de conservatoire, etc. Donc ce que j'ai fait. Mais en fait, il me manquait quelque chose, en fait, dans cette musique-là, que j'adore toujours, mais il me manquait, en fait, ce côté un petit peu improvisation, un petit peu légèreté, de pas avoir la partition sous les yeux et de faire quelque chose d'un petit peu plus au feeling, en fait.
Ouais.
Puis bah il s'est agi d'acheter une guitare électrique une première fois, et puis après les choses se sont enchaînées un peu d'elles-mêmes, tout simplement. Voilà, ça s'est passé comme ça quand j'étais môme. Et puis la musique classique et le violon demandaient un tel travail que il fallait minimum travailler 4 à 6 heures par jour pour maintenir un niveau correct. Voilà, ce que quand moi j'avais commencé à travailler à l'époque, ne m'était plus possible de faire. Donc tout simplement, la guitare électrique, je me suis dit, oh, ça doit être plus facile. Bon, en fait, c'est pas vrai, hein, en fait.
Bah écoute, moi j'ai envie de dire si, mais bon, ceci dit, ton travail acharné au violon t'as quand même permis d'obtenir une technique guitare peut-être un petit peu plus rapidement que quelqu'un qui n'aurait pas du tout pratiqué avant de jouer de la guitare, je ne sais pas.
Ouais, disons que ça m'a permis d'avoir... J'avais des bonnes bases musicales, donc forcément une oreille adéquate pour me permettre de me lancer un peu par mes propres moyens avec cet instrument-là. Mais je sais que tu connais cet instrument aussi, Marc.
Oui, un petit peu, oui. Non, mais...
en gaucher, quoi, mais voilà.
Oui, exactement. Oui, ça me ramène à quelques années. C'est vrai qu'on avait buffé ensemble sur la scène du Soubok.
Exactement. Hein, je me souviens très bien.
Petite dizaine d'années. Mais c'est vrai que tes habitudes de travail en tant que guitariste, voilà, ont fait que très vite tu t'es débrouillé. Et puis en fait, voilà, ça fait déjà plusieurs années. La Telecaster, pour toi, c'est ton instrument de prédilection.
Ouais, j'adore cette guitare, en fait. Ouais. Je sais pas comment dire les choses autrement. Je crois que c'est une guitare qui paraît tellement simple, tellement basique, mais avec laquelle on peut faire tellement de sons différents.
Ouais, c'est très polyvalent.
Ouais, voilà, j'adore cette guitare-là. Elle est simple, elle tombe sous les doigts, elle est légère, elle a un côté claquant, elle passe toujours dans les mix. Enfin, voilà, je pense que c'est une grande partie de mon éducation sonore, en tout cas, avec guitare électrique. Ouais. You should think that I won't be ready to take flight. You're not worth it, that's what I was saying. So being a fool and give up the fight.
Et comment est-ce que tu expliques que la Telecaster, qui est un instrument polyvalent, serve aussi très très souvent dans des formations country, par exemple?
Ouais, parce que ça claque. Enfin, c'est un instrument... Enfin, à la base, ça reste un instrument qui ne devait pas être cher. Alors maintenant, les choses ont évolué beaucoup avec le temps.
Enfin, tout dépend des versions en même temps. Hein, c'est
ouais,
vrai.
Évidemment, tout dépend des versions. Après, tu peux toujours trouver des instruments pas très chers. Mais les instruments qui... sonne vraiment bien, valent aujourd'hui malheureusement un certain prix. Et au départ, ça devait être un instrument vraiment basique auquel tout le monde pouvait accéder. Et c'était un des postulats de départ, hein, de fabrication de cette Telecaster. Et comme c'est un son vraiment claquant et qui... va bien avec toute cette technique de mélange de fingerpicking, d'utilisation du médiator, etc., ce qui est beaucoup utilisé dans cette musique, dans la musique que tu évoques. Très sincèrement, je pense que c'est l'instrument qui va super bien à cette musique-là. Quand tu mets une télécaster sur le micro aigu, ça déchire tout, quoi. Enfin, y a que ça qui passe. Ça devient l'instrument vraiment audible dans n'importe quel mix, en fait. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça.
La Fender Telecaster a été inventée il y a un peu plus de 70 ans par Leo Fender. Est-ce que tu penses que depuis les origines, il y a eu beaucoup d'améliorations, ou dès le départ, c'était un produit qui était juste parfait?
Les évolutions, il y en a eu. Bon, en l'occurrence, moi, je joue principalement sur une évolution qui est plutôt des années 60, parce que les manches étaient un petit peu plus fins. Voilà. Après, c'était des choses qui permettent plus des notions de confort, d'échange. Enfin, après, c'est une question d'appréciation. Il y a des télécasters avec des manches plus ou moins épais, enfin, etc. Ça fait partie des évolutions de l'instrument qui ont eu lieu. Voilà, le fait d'avoir une touche rapportée ou avoir une touche maple, c'était des choses aussi qui changent de son, qui changent aussi le toucher que tu peux avoir avec la guitare. Donc, il y a eu des évolutions de cet instrument-là, mais l'essence même de cet instrument-là, elle est restée la même depuis le départ.
Vraiment. Et dès le départ, il n'y avait pas de barre de réglage, il n'y avait pas de truss rod. Hein. Je pense que Leo Fender, il voulait pas utiliser ce genre de système.
Alors, au départ, il y en a pas eu, mais il y en a maintenant dans les télécasters, il y en a. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai un Crossroad qui est sur, ça reste un manche vissé, hein, et donc sur la télécaster, il y en a un qui est accessible depuis le côté sur le corps de l'instrument.
Ouais, en fait, on n'a pas arrêté d'utiliser le bois d'érable pourtant, si.
Il y a plein de bois différents en fait pour les télécasters. Le maple, c'est un truc qui continue d'être utilisé encore sur certaines versions aujourd'hui. Moi, j'en vois. J'avoue que je suis pas un technicien addict de l'instrument. Moi, je choisis mes instruments plus à l'oreille.
Pas en fonction du son,
qu'avec le bois, en fait, ou savoir comment il a été fabriqué. Moi, je prends une guitare, si elle me parle, si elle me fait quelque chose quand je la prends dans les mains, et qu'en plus, au niveau sonore, il se passe quelque chose déjà à vide, alors c'est un gros pas qui est formulé.
C'est déjà beaucoup, parce que je suis sûr qu'il y en a certains qui sont tellement addicts et tellement fans de lutherie qu'ils vont aller demander le nom des oiseaux qui s'étaient posés sur l'arbre avant qu'ils soient abattus.
En fait. c'est pas mon cas, en fait, pour être sincère.
Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de jouer sur une Broadcaster, qui était l'ancêtre de la Telecaster?
Alors, non. La plus ancienne guitare sur laquelle j'ai eu l'occasion de jouer, c'était une Telecaster de 1954.
Ah oui, pas mal.
Donc, ce qui était déjà pas mal,
Effectivement. les maîtres de la Telecaster, moi, si on me posait la question, je répondrais Albert Collins. Et toi?
Forcément, c'en est un. C'est une de mes grosses influences aujourd'hui. Ça fait partie des gens que j'ai admirés. Après, il y en a d'autres. Gatton fait partie aussi de ces gens-là. Bah, c'est d'un autre style, mais c'est aussi des choses qui sont assez incroyables à la Telecaster. Moi, Albert Collins, c'est un bon choix. Mmh. C'est un très bon choix même, j'avoue.
Alors, on parle d'influence guitaristique. Les influences du groupe par rapport au répertoire, on qualifiait Alice on the Sugar Sweets d'un groupe de rhythm and blues, mais il y a le blues qui est bien sûr en trame de fond dans tous les morceaux. On va écouter quelques extraits, bien sûr, et on l'a déjà fait depuis le début de cette interview. Les influences du groupe, pour toi d'abord, et puis je poserai la question à Yulia juste après.
Les influences, elles sont multiples. J'ai envie de te dire des choses assez éclectiques, parce que, comme je te disais, moi j'ai commencé par la musique classique, donc il y a une partie dans la manière probablement dans ma manière de jouer, une partie un peu classique sur certains aspects, mais dans les groupes aujourd'hui qui m'ont influencé, des gens comme AC/DC sont forcément partie de mes références, mais on va dire les trois kings, Freddy, Albert et Billy sont trois grosses influences, avec peut-être un très gros coup de cœur pour Freddie King, parce que c'est pour moi c'est le maître absolu par-dessus tout. À chaque fois qu'il prend sa guitare et qu'il chante, il se passe un truc absolument phénoménal.
Et pourtant, j'ai pas souvenir qu'il ait joué sur une Telecaster. Il a sûrement fait, mais
non, pas que je sache. En fait, il était plutôt sur une 335 et 330, mais peu importe. Je pense que c'est une question de. Enfin, je sais pas. Il savait faire passer quelque chose d'incroyable avec ses deux instruments, que sont sa voix et sa guitare. Et à chaque fois, c'était en plein dans le mille, quoi. Donc, ça fait partie de mes grosses influences. Après, j'en ai plein dans les contemporains. Il peut y avoir des Tommy Castro qui font partie de mes influences aussi. Je sais pas, j'ai une bibliothèque de disques et de CD. Je fais partie des vieux, donc j'ai encore ça.
17 ans et demi, Olivier, effectivement, tu l'as souligné.
C'est ça. Mais bon, voilà, il y en a plein. Je pense qu'une des grosses influences aussi, et qui a joué sur Telecaster, C'est Jimmy Vaughan, qui est aussi enfin, quelqu'un d'incroyable dans les sons qu'il a su donner avec la guitare électrique aujourd'hui. Bon, voilà, pour faire assez le plus court possible, ça fait partie des influences qui aujourd'hui traînent quelque part, de près ou de loin, dans Elvis and the Chipmunks.
Voilà. Tommy Castro, Jimmy Vaughan, on va dire pour la Solid Body, Freddie King, peut-être aussi B.B. King, pourquoi pas, dans la,
Hollow Body. Bien sûr.
Franchement, qui peut passer à côté de B.B. King? Je vois pas trop.
Je sais pas, personne. Personne, en fait.
Exactement. Et alors, la même question pour toi, Yulia. Quelles sont les chanteuses ou les chanteurs ou les musiciens qui t'influencent particulièrement dans ta façon de chanter?
Alors, donc du coup, moi, c'était un peu différemment, enfin, en fonction de, je pense, de ma vie, l'évolution, c'était un peu différent à chaque fois. Mais si je dois résumer aujourd'hui vers quelque chose, donc déjà, certes, je m'inspire beaucoup de toutes les chanteuses de grandes époques, donc du coup, c'est surtout Etta James, je pense, dans l'absolu. Aussi, beaucoup, et je peux pas le nier, c'est la première qui m'a amené en peu dans cette musique-là, c'est Amy Winehouse.
Oui.
Donc je pense qu'elle a influencé quand même une grosse partie des chanteuses actuelles, et donc du coup j'en fais partie. Sachant que par exemple, tout ce qui concerne la musique blues, j'ai vraiment connu cette musique, en tout cas mieux que juste quelqu'un de passage, grâce à Elvis and the Sugar Sweet. Donc moi j'étais vraiment plus côté soul avant, et donc du coup c'est grâce à Elvis and the Sugar Sweet que j'ai découvert plusieurs chanteurs, chanteuses blues. Alors pour donner un, je pense que je pourrais même pas, parce qu'il y en avait plusieurs. Certes, j'ai commencé aussi à écouter même tout ce qui est aussi la musique d'ici, quelque part, de l'Hexagone. Donc, ouais. Moi, je suis beaucoup inspirée par Mounted Milk, par exemple. J'adore, j'adore les écouter. Je trouve que, enfin, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime aussi beaucoup Beth Hart, mais c'est pas toujours quelque chose que j'aime. Mais de manière générale, j'aime beaucoup le personnage et j'aime beaucoup l'image qu'elle transmet en tant que chanteuse du blues. Voilà, donc, et sinon, plus dans les plus actuels, j'aime beaucoup aussi les groupes comme The Black Pumas, Michael Kiwanuka, Leanne Lavas. C'est un peu des chanteurs de nouvelle vague de cette musique là d'aujourd'hui. Voilà,
d'accord. Et puis tu citais tout à l'heure Etta James. Si on veut rester dans les anciennes et puis dans les soul women qui ont marqué leur temps, est-ce qu'on peut citer parmi les gens que tu aimes bien Aretha Franklin?
Alors j'ai hésité, je sais pas pourquoi. Donc Aretha Franklin, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour cette chanteuse, enfin pour cet humain déjà tout court. Mais personnellement, elle m'a pas influencée de point de vue chant. Donc
d'accord.
Ça veut dire que je l'ai beaucoup écoutée, entendue, etc. Mais disons que moi, je suis plus dans l'esprit de Etta James. Pourquoi? Parce que... Alors, quand il y a... J'espère que je ne vais pas être détestée par les gens qui écoutent ça là. Alors,
on peut
mais
pas être...
dans la musique...
Je vais te dire une chose. Excuse-moi, je fais une petite parenthèse. On ne peut pas être détesté par des gens intelligents quand on fait part de ses propres choix.
Ah ouais, ça, c'est voilà. Une bonne remarque.
Très bien. Donc, en fait, moi, dans cette musique-là, j'aime... quand il y a, une technique vocale qui prend le dessus, ça me perturbe du message principal de ce qui se passe. Je dis pas que Aretha Franklin n'est pas profonde ou je ne sais pas quoi.
D'accord.
Mais parfois, elle me perturbe. Donc, ça veut dire qu'il y a les manières dont elle est, surtout, peut-être, je pense, elle était très... entre guillemets, équilibré pour moi dans mes yeux, dans le début de ce qu'elle faisait. Et puis après, c'était presque... Enfin, je sais pas, c'était...
C'était plus formaté, tu veux dire.
Rentré dedans.
Ouais.
Ouais, et beaucoup trop rentré dedans. Donc, ça veut dire que Etta James, quelque part, le message principal de la chanson qu'elle
d'accord.
va... En fait, de toute manière, il faut savoir qu'aussi, moi, dans cette musique-là, ce que j'aime, c'est ce que la musique raconte. Je veux dire, tout l'habillage musical... Ce sont des moyens d'expression, donc pour moi c'est secondaire. La première chose, c'est vraiment la chanson en elle-même, le message en lui-même qui est donc ramené. Et je trouve que Etta James, dans mes yeux, donc je préfère sa manière de faire.
Très bien, ben voilà, c'est tout à fait justifié comme réponse. Merci Yulia.
Girls, did you call? 'Cause cause you don't wanna be alone tonight. Oh no, I've been watching you for long. I know we could get along, but now I'm gonna tell you why. I don't want you to call, don't wanna be your doll. I know what kind of man you are. I can be your woman if you let me be the only one. Yeah, yeah, yeah. I wanna be your lover, I don't wanna be a fool. I see a smile on your face, just like you won the race. I'm not ready for you now. How many women did you get before the day we met? I wanna know what it's all about. I can be your woman if you let me be the only one. And maybe we can find the good way to make you mine. But please leave me alone, don't call me on the phone. Give yourself a little more time. I've been watching you for long, I know we could get along, but now I'm gonna tell you why. I don't want you to call, don't wanna be your doll.
J'ai une question pour vous deux, répondra qui veut en premier. La création du répertoire, cet album qui est sorti au printemps, qui s'appelle Orocho, on parlera d'ailleurs aussi du titre. Comment s'est faite la création du répertoire ?
Ben, en fait, comme ça s'est fait pendant la période Covid, que même vu que j'ai que 17 ans et demi,
oui.
En fait, je me suis mis...
Les gens vont y croire au bout d'un moment, c'est
ouais,
clair.
Bien sûr. C'est sûr. En fait, on a utilisé les moyens actuels, c'est-à-dire que la communication par Internet, etc. On a beaucoup travaillé comme ça, on s'est souvent des fichiers, des informations, des idées, etc. Comme la musique reste un métier à part entière, on a quand même pu répéter pendant le Covid, ce qui a permis de mettre au point les morceaux, effectivement, aussi, pendant cette période-là, parce qu'il n'y avait pas les concerts, mais ben voilà, nous, il fallait qu'on travaille effectivement pour obtenir l'album qu'on voulait sortir. Donc il y a eu c'était un gros travail de collaboration. Souvent ça vient d'une idée, soit qui est mise par l'un des membres du groupe, et puis en fait moi je fais une maquette souvent, et puis on fait évoluer cette maquette là et on la travaille. C'est comme ça que c'est évolué. Puis on a fait aussi appel à quelques amis pour certaines compositions. Bah, par exemple pour un titre typiquement j'avais écrit la musique, on avait tout, mais j'arrivais pas à écrire un texte, donc on a appelé un ami qui nous a écrit un texte. C'est un morceau qui s'appelle Stolen Sun, et là il y a Pascal Guégan en fait qui nous a écrit un texte qui va à merveille, et du coup Julia s'est approprié le texte, a réinterprété interpréter aussi la mélodie, se l'est approprié vraiment à part entière. Et en fait, c'est devenu ce morceau-là, à force de travail et d'évolution sur ces morceaux-là. Et puis, on a fait aussi appel à certains amis qui nous ont, comme Bernard Selam, qui est un ami, qui est un coutumier du fait, avec lequel on bosse assez régulièrement, parce que c'est un ami, et puis deux, il avait des idées, il nous a proposé une chanson qu'il a écrite, deux chansons qu'il a écrites spécialement pour nous, et puis qu'on a réarrangées pour que ça sonne comme Elise and Sugar Sweets, évidemment, hein, parce que chacun a sa patte quand on écrit. Donc voilà, c'est un travail de groupe, c'est un travail d'idées qu'on a amené, c'est un travail d'échange avec des amis, et c'est devenu les 10 titres qu'on a posés sur l'album après, quoi.
D'accord. Pascal Guégor et Bernard Selam qui ont amené leur talent également à la création de cet album qui s'appelle Orocho. Je voulais savoir, étant donné que ce nom ne correspond à aucun des 10 titres, pourquoi ce titre et quelle en est la signification ?
Allez, You, je te laisse répondre.
Oui. Oui, bien sûr. Alors, déjà, effectivement, tu as raison, ça ne correspond à aucun des deux titres, c'était volontaire. Donc, c'est-à-dire que c'était un peu la volonté de départ de ne pas choisir le titre de l'album comme le nom de l'album. Mmh. Parce que ça veut dire qu'on a évoqué plusieurs sujets dans l'album, donc du coup, il n'y avait pas un titre qui représenterait vraiment, finalement, ce qu'on voulait dire.
C'est ça, quelque chose de plus fédérateur, oui. Parce que c'est pas un concept album, c'est une juxtaposition d'idées, de tranches de vie, c'est ça.
C'est ça. Et puis, je voulais dire quelque chose, Olivier ?
Non, vas-y, je te laisse finir, pas de souci.
Et donc, ce nom, Orocho, quelle en est la signification ?
Le titre, Khrelacho, donc le mot Khrelacho, signifie, donc en russe, c'est un mot russe qui signifie littéralement bien. Mais, littéralement, ça veut pas dire tout. Donc, pour moi, c'est un mot, et c'est pas que pour moi, donc dans l'imaginaire de la personne russophone, c'est un mot concept, un mot universel qui représente un état bien-être. Souvent, quand on nous demande comment ça va, on dit хорошо, mais ça veut pas dire, c'est pas comme ça va, c'est ouais. Plus profond, donc ça veut dire que ça va vraiment bien.
D'accord.
Donc, souvent, même quand on a marché longtemps en talons quelque part, donc on est très fatigué, et puis enfin on voit un canapé, on se met dessus, et le premier mot qui va sortir de la bouche de la personne russophone, ça va être хорошо. Donc c'est quelque chose où on exprime notre état de bien-être.
D'accord.
Ah bah oui, et donc, du coup, c'était quelque chose qu'on cherchait comme sensation. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a ressenti déjà en composant cet album. Et donc, aussi, on voulait transmettre l'état d'esprit du groupe parce que vraiment, c'est un peu notre première... c'est un peu notre leitmotiv, donc d'être bien ensemble, de créer de la musique parce que ça nous fait plaisir. Malgré le fait que ça peut paraître peut-être banal comme peut-être fonctionnement, mais en vrai, c'est la première, pour moi, dans tous les cas, pour tous les membres du groupe, c'est quelque chose qui est clair comme le jour. C'est que comme ça qu'on peut exister en tant que groupe, c'est dans cet état d'esprit. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi Khrelacho.
D'accord.
Aussi, j'anticipe un petit peu ta question, parce que je ne sais pas si tu voulais la poser. D'ailleurs, non, je vais écouter.
Vas-y, je t'en prie. Non, non, je t'en prie.
parce qu'effectivement, peut-être choisir un mot russe, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait évident, peut-être. Mais donc, du coup, on a quand même voulu garder ce titre-là qui a été choisi bien avant les événements qui se passent aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Mmh. Et donc, du coup, on a néanmoins voulu garder le mot russe parce que, un peu pour ne pas justement faire l'amalgame entre le mot qui est donc juste une représentation de la culture russe et donc, du coup, juste la langue russe qui n'a rien à voir en fait avec ce qui se passe.
Ben oui, de toute façon, la langue russe, oui, et puis les auditeurs sont, je pense, sont suffisamment, les auditeurs et puis vos spectateurs et vos fans sont suffisamment intelligents pour faire la part des choses entre les agissements d'un gouvernement et ce que font les gens issus de la population russe. C'est complètement différent et puis voilà.
C'est exactement ce qu'on s'est dit pour le coup. Donc,
Alors, voilà. Le groupe Elise and the Sugar Sweets qui existe, on l'a dit, depuis presque 6 ans maintenant et qui en est à un peu plus de 200 concerts et qui agit dans un petit peu tous les endroits. On aura l'occasion de citer tout à l'heure l'endroit où vous allez vous produire pour la release party. Ce sera pour octobre. Et juste une petite question peut-être pour Olivier à propos de la formule. Vous avez une formule à 5. On a cité les musiciens tout à l'heure. Et puis également également une formule cuivre et une formule cuivre plus choriste. Alors ça, c'est peut-être destiné aux plus grosses scènes. Comment est-ce que vous faites? Quels endroits vous choisissez plus particulièrement pour vous produire à 6, 7, 8 ou voire plus?
On va dire aussi, et on va être assez pragmatique, c'est souvent une question de budget tout ça. C'est-à-dire que effectivement, il y a des petits endroits dans lesquels on joue qui peuvent être des petits clubs où c'est difficile de monter à 11 sur scène typiquement. Donc là, on peut pas le faire. Mais par contre, quand c'est des festivals, si il y a les budgets qui permettent de faire ça, et ben, on vient avec la totalité des gens qui ont participé potentiellement à l'album pour qu'on puisse faire là pour le coup une version très très rhythm and blues, puisque dès qu'on rajoute les cuivres, dès qu'on rajoute les chœurs etc, c'est ce qu'on a voulu faire sur l'album. Pas tout le temps, parce qu'il faut savoir que c'est aussi bien pour le public d'avoir des choses un petit peu variées et donc de pas tout le temps avoir les cuivres, de pas tout le temps avoir les chœurs sur tous les morceaux. C'est aussi ce qui fait vivre un concert.
Oui, c'est ce qui permet aussi aux saxophonistes de boire un verre en entendant la suite, effectivement.
Exactement. Mais c'est un vrai choix. Plus, nous, on aimerait bien jouer tout le temps en version full band, mais ça, c'est pas toujours faisable.
Oui, bien sûr.
Donc, on joue principalement à 5. Et puis, quand on a les occasions de travailler avec les cuivres et puis avec les chœurs, bien sûr, c'est avec grand plaisir qu'on le fait. Et le plus souvent possible, on espère.
A woman with a flash of June, a frostbite. And moon with a wild coming and mischievous eye. A woman on top of blue dew is gazing at the western skyline, running drunk with the Atlantic wind without looking away.
Olivier, Julia, on peut également citer deux personnes qui font partie non pas du groupe mais du management et puis de la distribution. Enfin, on peut citer Xav Alberghini et Laurent Millet qui s'occupent de vous. Un petit mot à leur intention ?
Heureusement qu'ils sont là. parce que il nous file un gros coup de main, Xav, parce que il a participé à toute l'élaboration de l'album avec nous. Alors même si lui il écrit pas la musique, il est toujours là pour nous aider, pour nous supporter, quand on a un petit coup de mou, de remonter le moral. Enfin, c'est le bon blagueur de l'histoire en fait. Il est vraiment, c'est un gars super agréable. Je vais arrêter de parler de lui parce qu'il va rougir en écoutant l'émission.
Oui, je sais pas quelle taille il fait en chaussettes, mais en tout cas les élastiques sont morts là. Ça y est.
C'est sûr. Non, et puis Laurent, c'est lui qui nous aide pour effectivement nous aider à trouver des dates. Son fils bébé, voilà, c'est un petit mec vraiment extraordinaire aussi.
Ouais, ouais. Il s'occupe également de Barefootiano, enfin il fait plein de choses ce garçon.
Ouais, bien sûr, il travaille avec Rosedale aussi.
Question Olivier et Julia par rapport aux prochaines dates. Alors on est en septembre, mais déjà début octobre, il y a des choses qui se profilent à l'horizon et la release party, je te laisse nous en parler.
Ouais, alors on va faire une très grosse fête le 6 octobre au New Morning à Paris. Alors c'est vrai, c'est Paris, mais c'est une salle mythique, le New Morning, et franchement c'est un endroit où on va aller faire probablement beaucoup de surprises, où on jouera en full band pour l'occasion avec les gens qui ont enregistré sur l'album pour la plupart. Voilà, et on va faire une soirée assez sympa. On va se produire évidemment, et puis il y aura aussi, je pense, pour l'occasion Nico Chona qui sera là pour ouvrir la soirée, donc ça sera assez sympa, ouais.
Nico Chona plus Alice and the Sugar Sweets, c'est pour le 6 octobre au New Morning à Paris. La dernière question, elle est pour tous les deux. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous aimeriez quand même répondre?
Alors, je crois que la question que tu nous as pas posée, c'est typiquement comment vous avez fait pour avoir ce son sur l'album.
Oui.
Y a eu un gros travail sur le son et la production de l'album, et tout ça, en fait, on l'a fait grâce à une personne qui a été tout de suite à l'écoute de ce que nous on voulait obtenir. Et cette personne, elle s'appelle Michael Buin, c'est le gars qui a fait tout l'enregistrement de l'album et qui a fait le mixage en fait aussi de cet album-là, et qui a parfaitement compris là où on voulait aller, et qui fait partie des rencontres humaines qui nous ont permis d'aller faire ce bel album qu'on a produit et qu'on vient de sortir. Voilà, Michael, c'est la question que je pense pour moi, tu avais pas posé. Il fallait qu'on cite ce bonhomme qui est incroyable aussi.
Donc tu vas rappeler le nom à nouveau, Olivier?
C'est Michael Buyens, et qui travaille beaucoup avec les studios Besco, près de Mantes, la Jolie, en fait.
Très bien. Yulia, une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aimerais quand même répondre.
Alors là, j'étais en train de réfléchir pendant qu'Olivier répondait et... Franchement, je pense que tu as vraiment posé toutes les questions. J'ai beau chercher, tu vois, donc je ne trouve pas. Je pense que tout est complet. On a tout dit sur le groupe, sur l'album, je pense. Non, qu'est-ce que t'en penses, Olivier?
Que je peux rajouter un truc?
Bien sûr.
Je pense que les gens qui ont participé à l'album, il y a aussi un saxophoniste qui est ni plus ni moins le frère de Bernard Selam, qui s'appelle Philippe Selam,
oui.
Et qui a monté une section de cuivre pour l'occasion pour nous. C'est aussi un ami et ça a fait partie des très belles rencontres pour l'album. Philippe qui a monté et qui a travaillé avec nous pour les arrangements des cuivres sur les morceaux. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est vit dans le milieu plutôt du jazz, mais qui est quelqu'un de renom sur la place en saxophoniste, qui a travaillé avec Captain Mercier. Enfin, je sais pas si tu, je pense
oui,
que tu vas te souvenir de ce groupe-là. Mmh. Voilà, qui travaille dans No Jazz aussi, voilà, et qui a su réunir pour l'occasion Lorenz Reiner aussi à la trompette, qui est un super trompettiste qui joue avec Yuri Buenaventura par exemple.
D'accord.
Complètement dans un autre style.
Ah, oui, oui.
Et puis Martin Berlug, un super tromboniste aussi qui travaille sur plusieurs projets, le sien, Zaika, j'espère que je le prononce bien, et puis qui joue aussi dans Caravan Palace. Voilà, c'est une belle section. Et puis, on a eu la chance aussi d'avoir deux choristes supplémentaires dans l'album, qui sont deux fabuleuses personnes aussi. Il y a Inigo Paganotti, en fait, qui est une des choristes de Cabrel, et qui a aussi chanté dans Magma, qui est une connaissance de Bala, justement.
Ouais.
Et puis Audrey Lurie, qui est venue nous rejoindre aussi pour faire quelques chœurs sur l'album, qui travaille dans un projet qui s'appelle Little Udeta, dont tu as probablement des gens aussi en
tout à fait
parler,
exactement
enfin,
oui.
Voilà, pour la citer musique... tout le monde, comme ça on a oublié personne.
ouais la musique est un petit milieu effectivement quand on parle de gens comme Francis Cabrel, c'est vrai que lui aussi il a drainé de son côté beaucoup de talents qui se sont retrouvés après s'aimer dans plein de formations. En tout cas, moi ce que je voudrais souhaiter à Elise and the Sugar Sweet, c'est tout plein de concerts et puis bravo pour ce bel album qui aura des échos pas seulement dans Sweet Home Chicago bien sûr, mais un petit peu partout. Je pense que c'est le genre d'album qui pourrait aisément passer sur les grosses chaînes de radio et puis pourquoi pas faire de la télé. Enfin bon, voilà, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour avoir le vent en poupe.
Ben, merci beaucoup Marc pour ce compliment, c'est très appréciable.
Merci beaucoup Marc.
Et merci à vous deux et encore une fois, bravo et merci. On se retrouve bientôt sur la route du blues, je l'espère.
Et ben, très vite pour se croiser.
Absolument.
Au revoir Yulia, au revoir
merci,
Olivier.
Marc. Merci, ciao.
Au revoir Marc,
merci.
Salut.
Au revoir, merci.
Salut. Driving down the road.
Merci à Yulia Gubenko et Olivier Raymond pour cette interview. Bien sûr, je vous engage tous à vous procurer cet album qui s'appelle Orocho et signé Elise and the Sugar Sweets. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, bye bye. Come on, baby, don't you make me late.